Eh bien bonjour, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Rey, qui est philosophe et qui est aussi l'un des partenaires de l'Université Lila dans le cadre des conférences organisées, les rendez-vous d'Archimède. Cette année, une grande thématique, raison, folie et des raisons, donc autour de cette amphi Archimède, et l'occasion de présenter autour de ces thèmes une conception un peu philosophique de la raison, de la folie et des déraisons. Jean-François Rey, bonjour.
Bonjour.
Donc tout d'abord, ce grand thème qui va traverser toute l'année universitaire à l'Université Lila, il est bien sûr très riche avec de nombreuses déclinaisons, chaque conférence a son propre thème.
Oui, alors il faut dire d'abord que le cycle a déjà démarré depuis début novembre et qu'il a donné lieu à quatre grandes conférences sur les problèmes à la fois de la définition de la folie, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous. Quand je dis nous, c'est tout un chacun. Et puis également sur l'état actuel de délabrement et de pression dans lequel travaillent les psychiatres d'aujourd'hui. Et pour les plus anciens d'entre eux, ils n'y reconnaissent pas leurs idées, les raisons pour lesquelles ils sont devenus psychiatres. La deuxième partie de ce cycle, on peut parler d'un sous-cycle, démarre mardi prochain avec une conférence sur les déraisons de la raison. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut distinguer trois choses. Il faut distinguer la folie, qui est le nom commun et vulgaire, mais il est tellement ancré dans la civilisation occidentale qu'on continue à l'employer. La maladie mentale, qui se trouve désigner les états de crise, ou la situation d'un patient hospitalisé ou en soins. Et la folie n'a pas toujours été considérée comme une maladie. Ça ne l'est que très récemment. Et puis la déraison, qui est qui on pourrait définir comme un usage déréglé de la raison. Hein? L'ouvrage de Michel Foucault, dont on va célébrer cette année ici même le cinquantenaire, Histoire de la folie à l'âge classique, paru en 1961, eh bien, cet ouvrage montre précisément que il s'appelle folie. D'abord, au départ, il s'appelle Folie et des raisons. Hein? Et il montre bien que c'est à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire au siècle même de la raison, que l'on éjecte la déraison et qu'on la rebaptise folie. Et c'est ensuite au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, quand on se dira que ces malheureux qui sont laissés sans soins, souvent enchaînés dans des conditions terribles, eh bien, ils sont curables. On peut les soigner. Donc, vous voyez, ça fait 2 siècles qu'on pense effectivement qu'on peut soigner ce qu'on appelle donc désormais la maladie mentale. Voilà. Donc, ce cycle folie, raison, déraison est un peu un compromis que certains pourraient juger un peu boiteux, mais qu'on a pris parti de diviser en sous-cycles, 2 sous-cycles, un qui vient de s'achever la semaine dernière et un qui commence la semaine prochaine. Puisque nous sommes dans une université scientifique, il était normal qu'on examine sous l'angle de la déraison, de l'irrationalité, des sciences qui sont l'illustration de la raison humaine, les sciences exact, la physique, les sciences humaines, l'économie, etc. Voilà un petit peu quelle était l'ambition de ce cycle de conférences.
Alors, pour le philosophe, est-ce que c'est important, les mots, par exemple folie ou déraison, est-ce que le fait d'utiliser l'un plutôt que l'autre peut avoir une signification?
Alors ça a une signification d'ordre culturel, je viens de vous l'indiquer, si vous voulez. Quand Érasme au 6e siècle écrit l'éloge de la folie, comme son nom l'indique, c'est bien pour lui conférer une positivité. et non pas simplement très négatif. Mais à aucun moment, dans l'éloge de la folie, il n'est question de maladie. Hein. Un comportement déréglé, un comportement emporté, un comportement excessif, n'est pas forcément considéré comme un comportement pathologique. Hein. Donc pathologique, qui serait à soigner. Quoi. Comme on dit vulgairement, va te faire soigner. Si vous voulez, il y a des moments dans la culture où le mot folie désigne un certain nombre de choses. Il y a des moments dans la culture où on parle plutôt de maladie mentale.
Si on prend, par exemple, le cas aux lames ici, de l'art brut,
oui.
De même qu'à Lausanne, en Suisse, je pense qu'il y a oui. Un musée également consacré à cela.
C'est le premier, celui de Dubuffet, oui, en effet.
Mm-hmm. Est-ce que c'est une façon de mettre en valeur les côtés positifs des gens qui ont des difficultés d'ordre psychologique ?
Alors, il faut préciser des choses. Hein. L'art brut a été, c'est une étiquette que Dubuffet a inventée après la guerre, pour désigner toutes les personnes qui ne sont pas des artistes, qui ne se considèrent pas forcément comme des artistes, toutes les personnes qui peignent, sculptent, décorent, écrivent, mais qui, la plupart du temps, n'ont pas fait d'études, et qui, pour certains d'entre eux, une grande partie d'entre eux, ont passé une bonne partie de leur existence dans un asile ou un hôpital psychiatrique.
C'est la différence un peu avec l'art naïf, non ?
Alors complètement, parce que l'art naïf est un parti pris de peindre, d'une certaine manière, délibéré, comme ça dit Denis Rousseau. Mais l'art brut, c'est désigne par excellence des gens qui ne sont pas donnés pour projet explicite d'être peintre ou sculpteur, qu'ils deviennent par la suite. Et ils deviennent tellement que ça occupe toute leur vie. Ici, au LAM, il y a eu l'an dernier une exposition remarquable sur un peintre et musicien qui a passé la plus grande partie de sa vie en hôpital, qui s'appelait Wölfli. Hein. Et Wölfli est devenu un artiste à temps complet. Alors, le pari, c'est qu'ils sont à appréhender comme des artistes, même s'ils n'ont pas eu le projet explicite de l'être. Et je précise que si dans l'art brut, il y a beaucoup de patients psychiatrisés, il y a aussi dans l'art brut des paysans, des facteurs, des gens modestes. Voilà, c'est ça l'art brut.
Donc, cette approche de la folie vue par les philosophes, est-ce qu'elle est très différente de la folie vue par les psychiatres, les psychanalystes, par exemple ?
Alors, il faut distinguer. Hein, les psychiatres n'ont pas de formation philosophique, sauf exception, parce que ça les intéresse à titre personnel. Ce n'est pas prévu dans leur parcours. Aujourd'hui, on devient psychiatre avec très court temps de formation en psychiatrie. Et les psychanalystes, c'est autre chose. C'est une profession libérale qui intervient en psychiatrie, mais qui a, par certains côtés, beaucoup de points communs avec la philosophie, parce que c'est un apprentissage très long, collectif, on se forme avec d'autres, hein. Et effectivement, entre la psychanalyse, la psychiatrie et la philosophie, il y a des passerelles. Il y a toute une série de grands psychiatres, surtout allemands, disons dans les années 50, qui étaient à la fois psychiatres et philosophes, marqués par la phénoménologie, par Husserl, Heidegger, etc. Et l'un des derniers représentants de ces grands psychiatres, c'est Jean Houry, qui est directeur de la clinique de la Borde, et du côté philosophique, Henri Maldinet, dont on fête cette année le centenaire, toujours vivant, qui a su à la fois tirer l'essentiel de son enseignement philosophique, de l'observation des psychotiques, de la réflexion sur l'art, etc. Donc il y a toute une veine de la philosophie actuellement qui se nourrit de l'expérience psychiatrique.
Donc ces personnes malades, on les retrouve parfois dans la rue et aussi dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les centres de soins de jour, on appelle ça, hein, les unités d'aide qui sont dans les centres-villes parfois. Ces trois approches différentes, elles sont liées à la dangerosité des personnes ou à leur dépendance, hein.
Alors il faut mentionner quelque chose que je n'ai pas mentionné, on les retrouve aussi en prison. Une bonne partie de personnes souffrant de troubles psychotiques graves, délirantes ou avec possibilité de passage à l'acte, ont développé des accès psychotiques en prison. Ils y ont été souvent pour un passage à l'acte, condamnés, mais au lieu de leur proposer des soins, on les a collés en prison. Et c'est une bonne partie de la population. Une bonne partie de la population psychotique se trouve en grande marginalité, dans la rue. Vous parlez de dangerosité, il faut savoir que les schizophrènes sont, non pas, comme le laissaient croire certains discours politiques, plus dangereux que les autres, mais ce qui est vrai, c'est que par rapport à la population qui vit dans la rue, c'est eux qui sont le plus souvent victimes des agressions, parce qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre. Alors, la dangerosité est effectivement, malheureusement, l'angle sous lequel on appréhende cette question aujourd'hui. Et le discours de l'actuel chef de l'État, du 2 décembre 2008 à Antony, allait dans ce sens, malheureusement. Dans le sens d'une peur entretenue, à partir de quelques 2-3 faits divers, bon, regrettables et pénibles, certes, mais de 2-3 faits divers, pour jeter un peu une ombre sur et attiser les peurs concernant la population souffrant de troubles psychiques.
Est-ce que mettre les gens en prison, ça coûte moins cher que de les confier à des personnels spécialisés dans les hôpitaux psychiatriques ?
Je ne sais pas si ça coûte moins cher, mais en tout cas, la tendance à l'hospitalisation aujourd'hui, elle est une tendance d'hospitalisation courte. Hein. Et on voit souvent des gens, dès qu'ils vont un peu mieux, ils sont à peine stabilisés, qu'ils sont dehors.
Bon, certains aussi militent contre l'internement des malades.
Alors, il faut savoir que l'internement proprement dit est un épisode, souvent, de la carrière, entre guillemets, d'un malade mental, c'est-à-dire d'une personne qui a des troubles psychiques. Ça peut être un internement très court, suivi de soins à domicile, avec en général un centre médico-psychologique du quartier où il habite, puisque depuis la psychiatrie de secteur des années 60, on soigne davantage chez soi qu'à l'hôpital. Là, il faut le savoir, la plupart des gens sont soignés à domicile, ils sont suivis. Mais ils sont libres, ils sont pas. Bon. D'autre part, ce qui convient de dire, c'est que les grands hôpitaux psychiatriques qu'on connaît, souvent sont vides. Ils sont reconvertis, comme ici à Armentières par exemple, en séjours courts avec des activités culturelles ouvertes sur l'extérieur. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on n'interne pas. Mais il y a une loi préoccupante, qui est la loi du 5 juillet 2011, donc récente, qui prévoit le traitement sous contrainte juridique. C'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui ne va pas bien et qui, comme on dit vulgairement, pète les plombs trop souvent, eh bien, vous pouvez le faire interner. Avec l'assistance d'un juge qui décidera si la personne peut ou ne peut pas sortir de son internement. C'est un peu le rôle qui était réservé au préfet lorsqu'on parlait d'internement d'office. Donc là, c'est le juge qui, en concertation bien sûr avec la famille, mais de son autorité de juge, décidera de la prolongation ou non de l'internement. Ce qui pose un problème, c'est qu'est-ce que vient faire la justice dans l'évaluation du degré d'autonomie ou de santé de la personne.
Est-ce qu'un juge est moins fiable qu'un préfet?
C'est pas pareil. Est-ce que le préfet avait pour souci uniquement l'ordre public? Donc c'est tout. Et dans les faits, c'était le médecin qui préparait l'essentiel du travail. Le préfet faisait signer. Hein. Donc on est revenu avec raison contre cette procédure qui a pu permettre à certains moments d'interner des gens dans une famille qu'on ne voulait plus voir. Il y a des questions d'héritage qui se sont résolues comme ça. Enfin, bon, on n'en est plus là. Mais on revient malgré tout à une psychiatrie de surveillance sécuritaire et une psychiatrie disciplinaire. Contre l'avis des psychiatres eux-mêmes, bien entendu. Hein. Mais c'est ce que je vous dis là, c'est la tendance. Voilà. On peut espérer qu'on inversera cette tendance. Mais en tout cas, voilà, elle est comme ça aujourd'hui.
Alors, est-ce que les conditions de vie actuelles, est-ce que la société favorise la schizophrénie, par exemple?
Alors, on parle beaucoup de la schizophrénie, mais la schizophrénie est une psychose parmi d'autres. Hein. Alors, je n'ai pas les éléments épidémiologiques, statistiques, il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, pour vous dire s'il y a plus de schizophrènes que de maniaco-dépressifs ou ce que vous voudrez. Ce qui est nouveau, ce qui apparaît maintenant dans les enquêtes, c'est la souffrance au travail. C'est la suicidalité importante chez les adolescents et chez certaines personnes qui travaillent notamment dans le secteur médical ou médico-social, dans les hôpitaux notamment. Hein. Donc il y a y compris certainement des symptômes nouveaux qui apparaissent, comme le burn-out, des choses comme ça. Toute la question est de savoir, à l'avenir, si on considérera que ce sont des phénomènes qui relèvent de la psychiatrie ou de la psychanalyse, ou si ce sont simplement des troubles qu'on peut soigner par des médicaments et par des théories comportementales.
Est-ce qu'on peut avoir une idée, au sein des familles, des problèmes qui peuvent se poser par rapport au fait que dans cette famille, il y ait des malades mentaux? Est-ce que l'aide psychologique apportée à la famille est suffisante pour que cette famille puisse trouver un relatif équilibre?
Là aussi, je ne peux pas vous répondre précisément par des chiffres, bien entendu, mais il y a ce qu'on appelle les théories systémiques, où effectivement on fait pratique des thérapies familiales, c'est-à-dire qu'on écoute l'enfant, l'adolescent avec ses parents, avec les gens qui l'entourent, bien sûr. Donc, je crois que aucun psychiatre ne dirait que, il est clair qu'on ne peut pas soigner quelqu'un si on n'implique pas les parents, l'entourage. Ça, c'est clair. Je crois que tout le monde partage un peu, plus ou moins cette idée.
Alors, pour les gens qui n'ont pas de relation particulière avec cette maladie de leur entourage, est-ce qu'avoir une formation minimale, une compréhension de la psychologie de certains malades, ça peut aider? Par exemple, j'ai vu des gens formés par la ville de Lille, qui sont des agents municipaux et qui, le matin, sont de service à 4, 5 heures, 6 heures, et à qui on donne une formation pour faire la distinction entre des personnes SDF, des malades mentaux, etc., pour éviter d'intervenir de manière inappropriée. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de formation?
Je ne sais pas jusqu'où elle va, cette formation. Je pense qu'effectivement, c'est bien d'attirer l'attention sur ce qui est le plus visible, hein, sur ce qui est plus patent dans la souffrance des gens qui sont démunis, qui sont dans la rue ou qui vont manifestement pas bien. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être inscrit au programme de formation de certaines écoles, à commencer d'ailleurs par les facultés de médecine. Hein. Je précise quand même que aujourd'hui, on forme les infirmiers psychiatriques en 3 mois avec un stage de 6 semaines, alors qu'avant quand même, avant la, la suppression de la spécificité du diplôme d'infirmière psychiatrique, la formation était de 3 ans. Donc on a asséché une culture psychologique très importante, qui était celle des infirmiers psychiatriques. Et l'infirmier psychiatrique, ne pas oublier que dans la figure tutélaire de la psychiatrie moderne, c'est-à-dire celle de Pinel n'est rien sans son assistant Pouchin, qu'on appellerait aujourd'hui infirmier psychiatrique. Et voilà. Donc aujourd'hui, mais c'est valable aussi dans l'enseignement, hein, dans la formation des enseignants, je veux dire, aujourd'hui, on fait du très rapide. Et de quelque chose de très peu en lien avec le lieu de travail.
Donc je suppose que la psychiatrie, c'est aussi, dans nos universités lilloises, un domaine de recherche. Est-ce que les recherches qui sont faites actuellement trouvent leur écho dans les pratiques et les règlements qui sont mis en place, notamment en France ?
Alors, il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, le cursus de formation, effectivement, des médecins, généralistes d'abord, et ensuite spécialisés en psychiatrie. Ce que j'en sais, c'est que nous sommes passés d'une psychiatrie, celle des gens qui disparaissent maintenant, psychiatrie de l'après-guerre, humaniste, institutionnelle, qui a abouti d'une part à la rénovation des asiles et d'autre part à la psychiatrie de secteur. Bah aujourd'hui, ce grand acquis de la résistance est remis en cause.
Alors, Jean-François Rey, on va rappeler quelques rendez-vous de cette série Rendez-vous d'Archimède sur ce cycle « Raison, folie et déraison ». Donc, ce programme étant bien sûr détaillé sur le site de l'Université Lille, notamment de l'espace culture. Prochain rendez-vous donc le 13 mars sur Anomie et irrationalité en économie. C'est ensuite Éthique et rationalité. J'ai failli dire nationalité. En ce moment, c'est perturbant cette histoire
non,
de
non,
nationalité.
N'interprétons pas.
Non. Ensuite, aux origines irrationnelles de la rationalité, c'est le mardi 10 avril. Il y aura une journée d'études Raison et folie dans le cadre du 50e anniversaire de l'apparition de l'ouvrage de Michel Foucault. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est le 17 avril. Et une installation plastique de Pierre Lechner autour de la santé mentale du 15 mars au 20 avril, donc à l'espace culture toujours, et une table ronde sur le thème classifié sans stigmatiser la schizophrénie le jeudi 15 mars à 17h30. Si on veut, Jean-François Rey, donner quelques ouvrages de référence qui permettraient d'entrer un peu dans le sujet par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui.
Eh bien, je pense qu'il faut lire un livre magnifique de Marie de Pusset qui s'appelle « Dieu gît dans les détails ». Marie de Pusset est écrivain, elle a été professeure de lettres et maintenant elle est psychanalyste, à la clinique de la Borde. Son livre est aux éditions Paul, P-O-L, et c'est un récit très émouvant, très documenté. Et pour les gens qui sont pas très familiers de ce genre de choses, il faut le lire, sachant bien entendu qu'il s'agit dans la clinique de la Borne d'une expérience qui date depuis les années 50 et que la plupart des établissements de soins ne ressemblent pas à ça et feraient bien de s'en inspirer.
Alors Jean-François Rey, on entre en période de campagne électorale. Est-ce que la psychiatrie ou les thèmes qu'on vient d'aborder aujourd'hui, ça peut être l'objet de questionnements et lesquels seraient urgents ou importants ?
Je pense que il y a plusieurs choses qui sont importantes. D'une part, en matière de soins, en matière de soins psychiatriques en particulier, il faut toujours mettre en avant le singulier. On sait que les gens vont mal quand ils sont dans des ensembles homogènes où on s'intéresse à des populations et non pas à des individus. la première chose, la singularité. Ensuite, la qualité de l'accueil. Une admission en hôpital ou dans une clinique n'est pas un accueil, il ne s'agit pas de remplir une fiche, etc. Donc je crois que ce sont ça les points. L'accueil dans l'hôpital, l'accueil dans la cité aussi. Je crois que ce sont ces deux points-là qui sont les plus sensibles.
Jean-François Rey, je vous remercie.
Merci à vous.